bienvenue à cet entretien avec Gail Carriger, que vous avez eu l'occasion de découvrir ces derniers jours dans plusieurs tables rondes. Mais là, on a le plaisir de pouvoir prendre un peu plus notre temps pour discuter avec elle. Et donc, qu'elle nous parle un petit peu, qu'elle nous présente sa formidable série, hein, Les Aventures d'Alexia Tarabotti. Enfin, en fait, rapidement, elle s'appelle Lady Macon. Alexia Tarabotti, dont 5 volumes des aventures sont parus en traduction chez Orbit. C'est le protectorat de l'ombrelle. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter tout simplement la série, ce mélange de références et d'atmosphères assez particulières que vous avez orchestré dans ce texte.
All right. Hello everybody. Thanks for having me. The Parasol Protectorate series is a mixture of what we call steampunk, like Jules Verne, and supernatural, the urban fantasy, and comedy, and romance, and I could keep going, but mainly those ones. Yes, we're being short and sweet. No. You have your own.
I have two. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc la série du Protectorat de l'Ombrelle, c'est un mélange de steampunk, de surnaturel, d'urban fantasy, de comédie et de romance.
Donc à peu près tout ce qu'on aime aujourd'hui. D'où vous vient en particulier commençons par le steampunk, par l'Angleterre victorienne, et puis Jane Austen, et puis P.G. Woodhouse, tout ça vient à peu près du même du même moment, l'Angleterre, ce passé de l'Angleterre métamorphosé. D'où vous vient l'amour pour cette période-là?
BBC costume dramas. Mainly.
Je peux comprendre ça.
I didn't have a lot of television growing up, but when I was allowed to watch it, my British mother pretty much only let me watch period dramas, which was fine. As far the first Halloween costume that I made for myself was a hoop dress, but I made it with a hula hoop. It didn't work very well. But I was very proud of myself. I think I was 8.
Alors en fait, cet amour me vient des séries historiques de la BBC avec beaucoup de costumes. Quand j'étais enfant, j'avais pas vraiment beaucoup le droit de regarder la télévision, mais quand j'avais le droit, ma mère qui était britannique me mettait toujours des séries historiques, ce qui m'allait très bien d'ailleurs. Alors mon premier costume d'Halloween, c'était une robe, vous savez ces robes avec grandes robes. Sauf que je l'avais fabriqué avec un hula hoop, alors ça n'a pas super bien marché, mais j'en étais très fière. J'avais 8 ans à l'époque.
Et c'est vrai que la mode tient un rôle très important dans la série.
I'm slightly obsessed with clothing, just a little bit. So yes, and it is one of the things that in my book you can be guaranteed is perfectly temporally appropriate. So every piece of clothing that's described is accurate to the year and the month of the era, because I am obsessed with the clothing.
Alors j'ai une légère, toute petite obsession pour les vêtements. Et s'il y a bien une chose dont vous pouvez être certain dans mes romans, c'est que tout ce qui est fringues, ce sera tout à fait, enfin c'est vraiment précis, ce sera décrit correctement et ce sera les fringues adaptées à l'époque, à l'année, au mois près.
Ce qui semble assez incroyable dans la mesure où les vêtements sont complètement délirants. Enfin, à la limite, j'aurais pensé que c'était la chose que vous inventiez, les chapeaux, les descriptions.
No, Ivy's hats are all from fashion plates from the time period. I know you think that she's totally outrageous, but she's not. She's perfectly ordinarily Victorian. Yeah.
Alors non, effectivement, même les chapeaux de Ivy Saltpenny, c'était la mode de l'époque. Je sais que pour vous, ça vous paraît complètement fou, mais non, elle porte des choses qui étaient à la mode à l'époque.
Et donc, vous avez une documentation que vous allez en termes de voilà de mode de l'époque.
Yes, lots of books. I collect Gaudi's fashion plates and French fashion plates and collections of lots of clothes.
Okay. En fait, j'ai une collection de livres sur la mode, qu'elle soit française, britannique, tout. J'ai vraiment des livres sur tout.
Alors, ce qui fait une très bonne série, c'est sa capacité à évoluer, hein, à se renouveler. Et de ce point de vue, le protectorat de l'ombrelle fait très fort, hein, parce que Alexia, au fil des 5 volumes, donc je ne vais pas forcément vous raconter, on verra ce que Gail veut en révéler, Alexia évolue énormément. Est-ce que vous pouviez au départ, est-ce qu'au départ vous l'imaginiez dans ces rôles-là? Est-ce qu'un tel parcours pour Alexia, c'est quelque chose que vous envisagiez dès le départ? Tous ces nouveaux rôles qu'elle adopte tout en restant elle-même fondamentalement?
I think one of the way I write character-driven books, the characters for me are the most important, but that doesn't diminish the fact that the plot and the things that happen to those characters are going to change them and affect them. And Alexia is particularly affected by the people, the other characters that she meets, and the new friends that she makes, and the way that she manages to carve a role for herself. And so part of the arc of the whole series is watching her arrange the world to accommodate her. She just organizes everything to her own preferences. And it just takes everyone else a while to catch up.
Alors en fait, quand j'écris vraiment mes histoires, ce sont les personnages qui comptent le plus pour moi. Mais ceci étant dit, c'était également important ce qui leur arrive, l'histoire. Et donc ce qui arrive à ces personnages, ça les change. Et Alexia, elle évolue par rapport aux personnages qui l'entourent, aux amis qu'elle se crée et le rôle qu'elle se crée également. Et donc effectivement, cette évolution à travers les 5 romans, quelque part, on la regarde de l'extérieur changer le monde pour que, à la façon qu'il arrange elle. Elle organise tout à sa façon et les autres, il leur faut un petit temps d'adaptation.
Et en même temps, elle est aussi un peu régulièrement dépassée par les événements.
Well, she is still very Victorian. And so when she finds herself flying over Paris with her skirts hiked up and people can see her ankles, she is shocked and very traumatized by this. But she's also very practical. And so she's like, okay, so I have to fly over France showing my ankles to all the French people and I will just deal with it. So she has these two sides to her personality. And in the end, I think whether Victorian or not, Alexia will always do what is necessary to get the job done, to make everything right from her perspective.
Alors oui, effectivement, Alexia reste quelqu'un de l'époque victorienne. Et du coup, quand elle doit survoler Paris en ballon et qu'elle se retrouve avec sa jupe qui remonte et on voit ses chevilles, elle est complètement sous le choc, c'est affreux. Mais elle a aussi un côté complètement pragmatique, c'est-à-dire que bon, bah d'accord, faut survoler Paris, tous les Français peuvent voir mes chevilles, et bah tant pis, on va faire avec. Hein. Et donc il y a ces deux aspects à sa personnalité qui sont très importants. Et au final, qu'elle soit de l'époque victorienne ou pas, elle fera toujours ce qui est nécessaire pour arranger la situation, en tout cas comme elle l'entend.
Il y a aussi autour d'Alexia une grande évolution, un approfondissement très net des personnages qui au départ semblaient être des seconds rôles. Je pense à Biffy ou à Ivy.
Voilà. Oh, yeah. Yes, I think in my books everybody is a little silly, but you have to be careful not to dismiss anyone as too silly. So I like to build characters that you think you can predict as a reader. You think you know what's going to happen to them, say in the first or the second book. You think they are predictable, but then all of a sudden something will happen to them, or they will change, or they will show depth that you thought they didn't have. I like to tease my readers that way.
Alors en fait, je pense qu'à l'intérieur de, enfin dans mes romans, tous mes personnages sont un petit peu bêta, on va dire, ils sont un petit peu bêtes, mais il faut faire très attention à pas se dire qu'ils ne comptent pas quelque part. C'est-à-dire que j'adore construire des personnages où le lecteur va se dire, alors lui, on voit très bien ce qu'il va faire, on arrive à prédire ce qu'il va faire. Ça peut être le cas peut-être dans le premier et le deuxième roman, et puis tout à coup, il va leur arriver quelque chose où eux vont changer, et vous allez leur découvrir une profondeur qui était complètement insoupçonnée. Et j'aime beaucoup justement taquiner mon lecteur par rapport à ça, lui faire croire qu'il peut prédire les agissements de mes personnages, et en fait, pas du tout.
Oui, ça marche. Ça marche très bien, ça. Et vous, c'est le même jeu un petit peu que vous avez avec les créatures surnaturelles que vous reprenez, qui sont des habitudes de lecture qu'on a, les loups-garous, les vampires, et où là encore vous leur inventez une structure sociale, des habitudes qui transforment la vision qu'on pouvait en avoir.
Yes, it is exactly the same thing. I like to explore the unexpected. So one of the reasons that I like writing Alexia is because that's the way she sees the world. Is so she never reacts to a situation the way you would expect her to react. And I never write, or I try not to write the characters or the creatures in the way that people would expect them to be written.
Alors effectivement, c'est exactement le même principe. Moi, j'aime vraiment explorer l'inattendu. Alors j'adore écrire sur le personnage d'Alexia parce qu'elle a une façon de voir le monde qui est très différente des autres. Et sa réaction, c'est jamais celle à laquelle on s'attend. Et justement, c'est ce qui m'intéresse, faire des personnages pour lesquels on ne pourra pas s'attendre à leur réaction ou des créatures qui ne sont pas comme celles qu'on a l'habitude de voir.
Du coup, la société victorienne multiculturelle que vous décrivez, elle est à la fois très corsetée, comme on pourrait s'y attendre, très contrainte, et en même temps d'une grande ouverture, et même d'une très grande tolérance, que ce soit dans les modes de vie qui sont représentés, dans les orientations sexuelles, qui, de la même façon que pour les créatures, cohabitent en bonne intelligence. Est-ce que c'est le message que vous voulez transmettre, enfin l'idée du monde que vous avez envie de faire passer?
A little bit, I think. I like the idea of acceptance and tolerance, so I think that leaks into my books. But there was also an element of Victorian society that was more accepting, for example, of homosexuality than we give them credit for. It wasn't until Oscar Wilde's trial that the Victorians really reacted and became openly hostile. I think gay women always had a problem, but there was definitely an underground of bisexuals and homosexuals in England in the real Victorian era, and I simply associate them with the other outsiders, with those who are with the vampires and the werewolves, because they are already struggling to fit in properly, and so I think they sort of naturally cohese together.
Quelque part, c'est un peu l'image que je veux donner. En fait, j'aime beaucoup les idées d'accepter les autres et l'idée de tolérance. Donc, je suppose que ça se voit un peu dans mes romans. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est que la société victorienne acceptait beaucoup plus qu'on ne le croit les homosexuels. En fait, ce n'est qu'à partir du procès d'Oscar Wilde qu'il y a eu vraiment une hostilité très présente par rapport aux homosexuels. Mais au final, avant, ils étaient plutôt tolérants. Et je pense qu'il y a toujours eu justement cette communauté un peu marginale du coup des homosexuels. Et pour le coup, je n'ai fait que les associer aux autres marginaux, que ce soit les vampires ou les loups-garous. Parce que pour moi, c'était la même façon de lutter pour trouver sa place dans la société, parce qu'ils étaient en marge.
Du coup, il y a une représentation des genres, des sexes, qui est très, très diversifiée. Et voilà, encore, on peut revenir au personnage d'Alexia, qui est un personnage féminin qui est formidable, parce qu'elle ne correspond à aucun cliché, vraiment, en ce qu'elle a peu de qualités qu'on dirait spontanément féminines, à part peut-être justement sa grande capacité de planification, d'organisation planifiée des vies autour d'elle.
I guess I don't know. I never thought about her that much, like in that way. Alexia is mostly based on my mom, and she's
good
kind. She's kind of tough. She's kind of a dude.
Yeah, that's it.
I wouldn't go, but she. I mean, Alexia. Gender differences are difficult to distinguish, but I think Alexia likes to take care of people and look after people to a certain extent. But she also likes to have her own way, and she's very bossy, and she's very alpha.
Yes, she's alpha.
Mm-hmm. She's alpha. But I think the best and strongest women are like that. So I think there should be more Alexias around. Mm-hmm. Although if there's more than one Alexia in one room, then things could go horribly, horribly wrong.
Alors, en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi autant que ça à Alexia, en tout cas pas sur ce point de vue-là. Alexia, il faut le savoir, et principalement, c'est un personnage qui m'a été inspiré par ma mère. Alors, ma mère, c'est un peu un mec, en fait, sous certains aspects. D'un côté, Alexia, elle aime prendre soin des gens autour d'elle, mais d'un autre, elle est hyper autoritaire, c'est un alpha, hein, quelque part. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes fortes comme ça. Qu'il y ait plus d'Alexia parmi nous. Bon, par contre, si on met plusieurs Alexia dans la même pièce, ça risque de poser problème. Ça pourrait mal finir, donc il faut quand même se méfier.
C'est vrai que par rapport aux demoiselles de Jane Austen, même si elles étaient bien plus malignes et manipulatrices qu'on ne le pense trop généralement, il y a quand même beaucoup d'évolution dans le personnage victorien avec celle que vous nous présentez dans la série.
Alexia is essentially a modern feminist female. She just happens to be trapped in a Victorian's body. And so in consequence of being actually a Victorian, her brief encounter with the women's suffrage movement, she's shocked by the very idea of it. But I think if she were modern, if she lived now, that she would definitely be, you know, she'd be the president of a country or something like that.
Alors pour moi, Alexia, c'est une féministe moderne, mais qui est coincée à l'époque victorienne. Et comme elle vient de l'époque victorienne, malgré tout, quand elle rencontre le mouvement de femmes qui voulaient obtenir le droit de vote, ça la choque complètement. Alors que je pense que si elle existait de nos jours, je sais pas moi, mais elle serait présidente des États-Unis, un truc comme ça.
Qu'est-ce que vous lui réservez encore? Est-ce que vous avez une idée, un plan pour la suite du protectorat de l'ombrelle?
It's done.
Oh.
Wow. This is the last one. I don't like very long running series. I've had too many authors die on me. Terribly inconsiderate of them. So I wanted to make sure that I had a full series done in case I got run over by a crazy French taxi driver. So Alexia, I feel like 5 books is good. She has her story. And I will do more. There are more books in the same universe coming. So there's a young adult series that takes place earlier in time. And then there will be another adult series that's about 20 years after the Alexia books. And if you've read the last one, you know who the main character is.
Mm, okay, because...
Non, alors, donc, en fait, c'est fini. Donc là, le Sans âge, c'est le cinquième roman de la série et c'est le dernier pour Alexia. En fait, le truc, c'est que j'aime pas les séries qui sont trop longues parce qu'il y a trop d'auteurs qui sont morts avant d'avoir pu finir leur série, alors que j'adorais leur série. Donc, c'était pas très, très sympa de leur part. Donc, moi, je voulais m'assurer que j'ai au moins une série de terminée, complète, parce qu'on sait jamais, si jamais demain, je me faisais renverser par un chauffeur de taxi fou français, eh ben, au moins, il y aura une série de terminée. Donc, Alexia, son histoire, c'est sur 5 romans. Par contre, il y aura d'autres romans dans le même monde. Il y aura une série pour adolescents qui se passera avant l'histoire d'Alexia. Et il y aura une série pour adultes qui se passera 20 ans après l'histoire d'Alexia. Et si vous avez lu le dernier roman, je pense que vous pouvez deviner qui est le personnage principal de la série suivante.
C'est ça, parce qu'on restait quand même sur sur le sentiment que ça devait se poursuivre. C'est pour ça que je disais qu'y a-t-il encore après, parce que donc voilà, je conseille de le lire jusqu'à la fin. On a des surprises absolument constamment.
And of course we need to know how Alexia herself and the consequences of all of her actions in these books has changed the whole world around her. And that's what the next series will deal with.
Oui, et puis de toute façon, il faut bien qu'on sache comment justement les actions d'Alexia et quelles seront les conséquences de ces actions et comment ça aura changé le monde autour d'elle. Et donc ce sera le sujet de la série suivante.
Donc là, vous êtes en train d'écrire Finishing School, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Sure. The main character in the Finishing School series is very different from Alexia. Her name is Sophronia, and she is very crafty and very reserved and very quiet, and she's a good observer. She likes to manipulate and go in and learn how exactly to be polite so that she can trigger the right reaction. And she gets recruited without realizing it for a ladies' finishing school. And then she learns when she's there that it's actually a spy training academy. And then we go from there.
Alors en fait, donc la nouvelle série Finishing School, qui n'est pas encore traduite en français, le personnage principal est très différent d'Alexia. Elle s'appelle Sophronia, elle est très douée, très réservée, elle aime observer ce qui se passe autour d'elle et manipuler les gens. Elle aime apprendre à être polie et pour pouvoir en fait réagir les gens comme elle l'entend. Et elle se fait recruter pour aller à une école, donc la Finishing School, qui se trouve en réalité être une école pour entraîner les futurs espions.
Et c'est dans quel cadre? C'est aussi victorien?
It's the same world.
Oh, okay.
It's just earlier in time. And when you start to read it, you will see that the world is not quite as I wrote it here. There is better and more technology and steampunk. There are steampunk creatures and steampunk animals. And the books explore why those were destroyed, so why they were banned.
Alors en fait, donc ça se passe dans le même monde que la série d'Alexia, mais plutôt dans le temps. Et quand vous commencerez à le lire, vous verrez que le monde est un petit peu différent. En fait, il y avait plus d'avancées technologiques et il y avait des animaux steampunk. Et vous apprendrez pourquoi ils ont été bannis en fait.
Et dans donc toujours dans les expansions du monde autour d'Alexia, il y a aussi des BD qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des projets d'adaptation visuelle? Parce que c'est vrai que ça s'y prête.
So far as I know, just the manga. But I like them very much. I'm very excited about them. I read manga before somebody approached me And so I knew what the style of art was like, and I knew what it would look like. So I enjoy the Japanese influence on the Victorian era. I think it's a very interesting connection.
Alors en fait, pour l'instant, a priori, il n'y a que les mangas de prévus. Personnellement, je les adore. Je lisais des mangas avant que mes romans soient adaptés en manga. Donc je connaissais déjà l'art un petit peu et j'aime beaucoup justement l'influence japonaise sur l'époque victorienne, leur façon de la représenter.
Vous êtes en France pour la première fois pour présenter cette série. Quelle est la réception, l'accueil qui vous est fait? Est-ce que c'est différent de ce à quoi vous êtes habitué?
Actually, no. It was very funny. I was very worried about coming to France. Because everybody said that the French were very reserved and they didn't smile very much and then I realized just this morning that my readers and the people who love my books, they're pretty much the same everywhere. They're all just really awesome. So I was like, every time I meet fans, I'm like, oh, it's just home again. So this morning I was like, oh, okay. It's all good. And of course I neglected to realize the French obsession with food. And I was worried that I wouldn't have things to talk about, and like in England they talk about the weather all the time. But here they talk about food. And I can talk about food all day, endlessly.
Alors non, justement, c'est assez rigolo parce que j'étais assez inquiète de venir en France parce que tout le monde m'avait dit que les Français étaient assez discrets, réservés, qu'ils souriaient pas beaucoup. Et au final, je me suis rendu compte que les gens qui me lisent et qui apprécient ce que j'écris, non, c'est les mêmes partout. En fait, ils sont géniaux. Donc quand je rencontre des fans, je me dis c'est un peu comme si j'étais à la maison. Ça se passe vraiment très bien. Et puis alors je dirais pas que j'avais sous-estimé, mais je m'étais pas bien rendu compte à quel point les Français étaient obsédés par la nourriture. Et j'avais un peu peur de pas savoir de quoi parler aux gens. Et en Angleterre, ils parlent du temps, du temps qu'il fait. Et en France, ils parlent de la nourriture. Et alors ça, moi, je peux en parler toute la journée, il n'y a pas de souci.
Ça, c'est donc un trait qu'Alexia tient plutôt de vous.
Yes. Yes. Oh, and the clothing is me. My mom. She's hopeless. No, Alexia is a pretty clean, is a mixture really. She's me and my mom and a couple of my best friends all rolled into one.
Oui, alors en fait, oui, donc effectivement, l'obsession pour la nourriture chez Alexia, ça vient de moi. Pour les fringues aussi, pareil. Pas du tout de ma mère, parce que ma mère, point de vue mode, c'est vraiment pas ça. Et du coup, Alexia, au final, c'est un mélange de moi, de ma maman, de mes meilleurs amis. C'est un gros mélange.
The nose, that's my mom. The rack, that's me.
Donc le nez, c'est plutôt ma mère. Par contre, la poitrine, c'est plutôt la mienne.
Et les Anglais, alors vous disiez que vous étiez passé par l'Angleterre, on en avait un petit peu discuté toutes les deux. Est-ce qu'ils, comment ils prennent le fait que vous, américaine, vous repreniez leur folklore et vous le l'appropriez de cette façon?
Okay. So everyone here is French, right?
Tout le monde est français dans la salle, c'est bon? Je peux parler?
No, it was really funny because it was like the upstart American wouldn't buy my book for the UK forever. And this is a great story actually, because French rights sold before British rights sold, and my mother was so upset. It was because she's British. So it was like the French had won the war or something. She was like, oh, I can't believe the French got there first. She was very, very mad at her tiny island.
Alors, c'est assez drôle parce qu'au final, on a eu du mal à vendre les droits en Grande-Bretagne. À vrai dire, les droits français ont été vendus d'abord, les droits britanniques ont été vendus après. Et du coup, ma mère, qui elle est britannique, était complètement mais traumatisée. Parce que c'était un peu comme si les Français avaient gagné la guerre. Elle était, mais j'arrive pas à croire qu'ils aient acheté les droits avant nous. Et elle était tellement en colère contre sa petite île, c'était fou.
She felt betrayed by her countrymen, I think.
Elle se sentait complètement trahie par ses compatriotes.
Et on est très fiers hein, d'avoir gagné cette guerre. Je pense que... et alors finalement, ils vous ont adopté?
I think they figured out that that my mom's an expat and I have dual citizenship and you know I spent a lot of time over there, so I think they forgave me for being American eventually.
Alors en fait, je pense qu'ils ont fini par se rendre compte que ma mère était une expatriée, que j'avais les deux nationalités, et avec le temps, ils ont fini par me pardonner.
Either that or they realized that the French had gotten there first.
Soit ça, soit ils se sont juste rendus compte que les Français avaient gagné et ça les a énervés.
Bon, c'est vrai que cette Angleterre qu'on a réimaginée dans le steampunk, elle appartient un peu à tout le monde. C'est devenu un imaginaire très, très, très mondialisé. Comment vous expliquez ça, l'attrait que ça peut représenter?
I don't know. I mean, I understand the American mentality. I mean, I understand the British. The British are sort of ridiculously, Britishly proud about it, because it's theirs. And I understand the American because Americans love the British aristocracy and they love the class system. But I'm not. I don't know. Like, I was shocked that the French. Like, why? Why do you want to read about the Victor Victorians, the crazy Victorians? And I don't. My Japanese sales are very good too. The Japanese love the. I think because, frankly, for me, it's because they're so ridiculous. There's nothing weirder than the Victorian aristocracy in full charge ahead mode, wearing their stupid hats and drinking their gallons of tea.
Alors, bah en fait, je sais pas vraiment pourquoi ça marche si bien, parce que bon, encore, les Britanniques, je comprends, ils sont super fiers, c'est leur histoire, donc quelque part, voilà, c'est à eux, ils en sont très très fiers. Les Américains, je comprends, parce que bah ils adorent les histoires d'aristocratie britannique, le système de classe, tout ça, ça les intéresse. Par contre, la France, je comprends toujours pas. Je sais vraiment pas pourquoi vous voulez lire des histoires sur l'époque victorienne. Franchement, ça me dépasse. Pareil, au Japon, ça se vend très bien, et je comprends pas trop pourquoi non plus. Mais je pense que c'est surtout l'aspect ridicule des histoires. C'est tellement étrange, ces histoires de l'aristocratie victorienne avec leurs chapeaux idiots et leur thé qu'ils boivent à longueur de journée. Je pense que c'est l'aspect ridicule qui vous intéresse.
Oh, c'est vous qui le rendez très drôle. Parce que, non, vraiment.
Well, there's something about... And don't get me wrong, I love the English. Like I love to lampoon them too. But there's something about that the British attitude in the Victorian era of complete and utter superiority to everyone else that makes them incredibly easy to mock. It's very like the Americans right now. I mean, I think it's just ridiculous. There's nothing you can do but laugh.
Alors en fait, alors. Ne me méprenez pas, en tout cas, j'adore l'Angleterre. Mais franchement, l'attitude britannique de l'époque, cette espèce de supériorité par rapport à tout le monde, c'est très très facile de s'en moquer, tellement c'est ridicule. C'est un peu similaire aux États-Unis de nos jours, parce que bah, c'est pareil, quand on se prend pour les rois du monde, bah, c'est un peu ridicule. C'est la même chose. On peut que rire, en fait.
En même temps, dans le genre... auquel on pourrait vous rattacher alors que vous n'en êtes pas vraiment, qu'en France on appelle bitlit, hein, paranormal romance, il y a beaucoup plus de fascination à la fois pour cette époque, pour l'esthétique, plutôt que d'en rire, on trouve ça très beau, et on associe complètement ça à la fascination qu'il y a aussi pour le vampire, qui est une autre forme d'aristocrate très séduisant.
Yes, yes. Yes, exactly. And I like to mock the vampires almost as much. You know, with the lisping and drenched in jewels and stuff.
Oui, et j'aime me moquer des vampires à peu près autant que des aristocrates. Par exemple, le fait qu'ils ont un cheveu sur la langue quand ils ont leur croc pour la première fois, ils n'arrivent pas à parler correctement parce que c'est pas facile. Ou alors le fait qu'ils portent des bijoux à outrance, je me moque d'eux de la même façon.
C'est vrai que c'est plutôt les loups-garous qui sortent grandis de là.
Yes, but they're also mocked because I have them naked as much as humanly possible in my books. And of course, the Victorians are constantly appalled because there's a large naked Scotsman standing in their coat closet.
Oui, mais même les loups-garous, je m'en moque parce que techniquement, ils sont nus aussi souvent que possible dans mes romans et que les Victoriens sont complètement choqués de trouver un Écossais tout nu dans la rue. Je m'en moque aussi.
Donc il y a une volonté chez vous de parodie de ce genre-là, de la bitlit, des Twilight, de...
Well, my books are parodies, but they're parodies of the original Gothic literature. So this one is this one. Soulless, the first book, mm-hmm. is pretty much a straight-up parody of the romances, the Gothic romances, like, you know. Northanger Abbey or something. And so yes, to a certain extent, but I also do kind of want to poke a little fun at the modern werewolf and vampire because I do find it a little weird to make them so sexy when they're just kind of odd monsters. And, you know, like the age difference with the vampires and the girls they're swanking about with, like, that's kind of creepy. Mm. And, I mean, it's kind of creepy with the werewolves, too. But and I think a lot of the bitlets forget the awkwardness of being supernatural in the modern world, like having to get naked all the time if you're a shapeshifter. Or, you know, like wiping your mouth after you've been sucking someone's neck. I mean, it's very messy.
Oui, alors, en fait, moi, je voulais faire des parodies, mais c'était plutôt des parodies de la littérature gothique. Par exemple, pour le premier roman Sans âme, c'était vraiment une parodie des histoires romantiques gothiques, par exemple, Northanger Abbey. Mais oui, quelque part, je veux aussi moquer des vampires et des loups-garous modernes, parce que je trouve ça quand même bizarre qu'on les rende si sexy, alors que quelque part, c'est juste des monstres étranges. Enfin, je veux dire, déjà, la différence d'âge. Je veux dire, les vampires qui sortent avec des petites jeunes, alors qu'eux, ils ont je sais pas quel âge. Enfin, franchement, c'est un peu flippant, quoi. Et puis, les loups-garous, c'est pareil, au final. Et je trouve que, justement, en bitlit, on a tendance à oublier l'aspect bizarre du surnaturel dans un monde moderne. Pour ne prendre qu'un exemple, le fait que quand on vient de boire le sang de quelqu'un, il faut s'essuyer la bouche, parce que sinon, on en a partout. Voilà, ça, on n'en parle pas.
And by extension, I think Alexia is a little bit of a parody of the modern... bitlet heroine. So they often react emotionally and Alexia is always very practical. So I guess I, in my way, I am sort of poking fun at all of the... Sorry.
Alors oui, et par extension, du coup, Alexia, quelque part, est une parodie de l'héroïne de bitlet par excellence qui va réagir de façon très émotive, alors que Alexia, elle, est très pragmatique. Et du coup, oui, quelque part, je me moque un peu de tout ça et je suis désolée.
C'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant que, voilà, que c'était une héroïne qui allait contre les clichés, qui n'était pas caricaturalement féminine. C'était cette absence d'émotion qui est très frappante, qui est un trait accentué chez elle.
And she would also never appear on the cover of her book with her stomach showing.
Et jamais on la verrait sur la couverture de son livre avec le ventre à l'air.
Et alors, dans ce même ordre d'idée, je trouve que vous rendez très bien le vieillissement des personnages, l'impact du grand âge de ces personnages immortels. là encore en contraste avec certains ouvrages de Beatlet où les vampires sont censés être très vieux et en fait ils frappent par leur grande immaturité, enfin voilà, ils sont manifestement toujours restés adolescents et voilà, là ça n'est pas du tout le cas.
And that's exciting for me. I think if you want to write about immortals, you have to really try to climb into that head, which is practically impossible for us. The idea that you have no fear of death is going to make you react differently to everything in life. Mm-hmm. And particularly for vampires, humans seem like flies, like very... or food, you know? They just... They don't, and so their reactions and their behaviors and their interactions with humans is very different for me because I think it has to be. It's hard to articulate. and so one of the ways for me that they would cope is to try to damp down emotion. So vampires in particular, they try not to form bonds in quite the same way that humans would, because they are too accustomed to having everybody constantly die on them.
Alors, mais justement, c'est bien ça qui me plaît beaucoup. Je me suis dit que si je voulais écrire sur des personnages qui étaient immortels, il fallait que je rentre dans leur tête, ce qui est quelque part impossible. Mais je trouvais que si on n'a pas peur de mourir, quelque part, on ne réagit pas face au monde de la même manière que les humains. Et pour les vampires, les humains, quelque part, c'est des mouches ou de la nourriture. Mais du coup, leur réaction face au monde et l'interaction avec les humains, pour moi, ça devait être différent par rapport à la Beatlet. Je ne pouvais pas faire autrement, c'est assez difficile à expliquer. Et parce que pour moi, un vampire, par exemple, pour justement faire face à cette immortalité, il va devoir, quelque part, étouffer ses émotions et éviter de créer des liens avec les gens qui l'entourent. Pourquoi ? Parce qu'il a l'habitude que tout le monde meurt autour de lui. Il ne voulait pas démoraliser tout le monde, pardon.
Moi, j'ai plus trop de questions, donc si vous voulez ajouter quelque chose, ou moi, j'aime bien quand même laisser un petit peu quelques questions au public, si ça vous dérange. Pas. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Vous avez encore peut-être 5 petites minutes pour profiter de Gail Carriger.
Dun, dun, dun.
Elle vous fait peur hein, maintenant.
Yes. I don't bite.
Je ne mords pas.
Unless you ask nicely.
Sauf si vous me le demandez gentiment.
Oui.
Yes.
Très bonne question.
Donc, le temps qu'elle réfléchisse à sa réponse, je traduis la question. Donc la question, c'était de savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez vous moquer des vampires, des loups-garous et de la société victorienne. Est-ce qu'il y a quelque chose de tellement sérieux pour vous que vous ne vous en moquerez jamais ?
I don't really have an answer for this. I've never had this question before. I think I consider myself to some extent kind of a comedian. In which case, everything is open to mockery. You know, everything is open to being lampooned. Yeah, I pretty much everything, even the things I love, I'm willing to mock, like food or shoes. Yes, I maybe that's it. Yeah, I mean, I was thinking, you know, that there are certain things that I prefer not to really address in my books. But even they come under the, you know, like I deal with religion and science and a lot of hot topics and homosexuality. And I think it's everything's pretty open. I certainly, You can certainly see some of my values in my books. Mm-hmm. For example, it's unlikely that a homosexual character will ever be a very negative character. I think that they've got enough to deal with. So I want to fight the good fight. So, yeah. Sorry, I wish I was smarter about this one.
Alors, en fait, j'ai pas vraiment de réponse à cette question parce qu'on me l'a jamais posée avant. J'ai jamais vraiment réfléchi. Alors, je pense que quelque part, je me considère comme un comique et je pense que je peux me moquer de tout. Même de ce que j'aime d'ailleurs, parce que je me moque aussi bien de la nourriture et des chaussures. Donc, la dame dans le public intervenait en disant qu'on peut se moquer de tout, mais pas avec tout le monde. Oui, quelque part, c'est vrai. Il y a des choses dont je ne parle pas vraiment ouvertement, on va dire, comme la religion, la science. Enfin, ces sujets dans les romans, mais je ne vais pas forcément les souligner plus que ça. Ou l'homosexualité, je pense qu'on peut voir mes valeurs dans le roman, par contre. Je ne vais pas forcément parler de ce sujet-là directement, mais on voit mes valeurs dans le roman. Par exemple, vous ne verrez jamais un homosexuel qui sera décrit de façon négative dans un de mes romans. Je trouve qu'ils ont déjà bien assez à faire. Je préfère combattre le bon combat. Je suis désolée. Je suis pas assez intelligente sur ce coup-là. Je ne peux pas faire mieux.
I'm going to keep going. I think partly I'm very lucky to write comedy because it's a more fertile field. So I get to address more topics and I get to get away with it more than a lot of the serious writers because no one's going to take me seriously most of the time. So they don't realize how subversive I can be. So like my books are very popular in Texas. And I keep thinking, do they know what they're reading? But, you know, they look so civilized, right? I think I can get away with it.
Alors déjà, je pense que j'ai beaucoup de chance d'écrire des comédies parce que quelque part, c'est un domaine plus fertile. Je peux aborder plus de sujets et sans qu'on me remette en question, enfin sans qu'on vienne m'embêter quelque part, parce qu'on ne prend pas au sérieux. Donc au final, je peux dire ce que je veux. Mais d'un autre côté, je vais être subversif, hein, je vais manipuler les gens quelque part. Mais mes livres sont très populaires au Texas. Je me demande sincèrement s'ils se rendent compte de ce qu'ils lisent. Parce que c'est sûr, quand on regarde la couverture, ça fait très civilisé. Mais bon, quand on voit les idées que j'essaye de passer, je pense que je m'en sors bien, alors que si c'était pas de la comédie, on pourrait m'attaquer sur certaines choses.
Éventuellement, une autre dernière question, ouais.
My technique. Ah, ok.
Donc la question, c'était de savoir comment elle travaillait, quelle était sa routine journalière, si elle travaillait le matin, voilà.
This is my job, so I treat it like my job. So I get up and go to work at my office. And because I usually have business to deal with from Europe or New York, I do that in the morning. So it turns over quickly because I'm in California and we're the end of the line. So... especially for New York, because they're done by 2 my time.
So you can diary like your mother.
And then I have tea at 2. And then I write from there on. And I write when I am on a deadline, which seems to be all the time these days. It's 2,000 words a day. And that's every day of the week. I don't work on the weekends. And I have to write 2,000 words. So sometimes I'm done in 2 hours, and sometimes I'm writing until 10 o'clock at night. It depends on how it's going. But if I haven't written, I don't get to watch television. Mm-hmm. I don't get to eat chocolate. I work very well on bribery. So when I finish a draft, I get sushi. And when I turn in a book, I get a new pair of shoes. So I'm getting mercury poisoning and a lot of shoes.
Yeah.
Alors, en fait, c'est mon travail, donc je le traite comme tel. Je vais au travail, j'ai un bureau. Comme j'ai parfois des affaires à régler avec l'Europe ou avec New York, je fais ça le matin à cause du décalage horaire, vu qu'on est tout au bout du décalage horaire. À 2h, je prends le thé. J'écris, alors ça dépend, mais quand j'ai une date pour rendre mon travail, ce qui en ce moment est tout le temps le cas, j'écris 2000 mots par jour, j'écris tous les jours de la semaine, je ne travaille pas le week-end. Donc parfois ça peut me prendre juste 2 heures pour faire mes 2000 mots, parfois je termine à 22h, ça dépend. Mais si j'ai pas fini mon quota de mots, je n'ai pas le droit de regarder la télévision, je n'ai pas le droit de manger du chocolat. Donc au final, faut un peu me soudoyer pour que je travaille, hein, ça marche à la carotte. Quand j'ai terminé un premier jet, je m'offre un sushi, je mange des sushis, et quand je rends un livre, je m'achète une nouvelle paire de chaussures. Donc en gros, je m'empoisonne au mercure et j'ai beaucoup, beaucoup de paires de chaussures.
Un grand merci à Gaëlle Carrégor et merci à vous. C'était un plaisir de discuter un peu plus longuement avec elle.